With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bienvenue dans On the Verge, le podcast de la sexualité masculine. Pour ce nouvel épisode, c'est Fabrice Florent qui est à mon micro et qui me fait le plaisir de répondre à mon interview. Fabrice Florent, vous le connaissez déjà peut-être, c'est un podcasteur indépendant. Il a créé les podcasts de témoignages à thème comme Histoire de succès, Histoire d'argent, Histoire de daron ou encore Histoire de mec. Également, il y a 15 ans, Fabrice a créé le magazine indépendant féministe Mademoiselle, qu'il a revendu depuis. C'est donc un homme déconstruit, ouvert sur le sujet, qui parle sexualité de façon très libre à ce micro. Ce qui est très intéressant, c'est que Fabrice a rencontré très jeune sa femme, devenue son ex depuis, avec qui il a eu deux filles. Et aujourd'hui, à 40 ans passés, Fabrice, qui est jeune divorcé, se retrouve sur le marché du célibat à devoir composer avec tout ce que ça comporte. C'est une discussion avec un pote, parce que Fabrice et moi, nous sommes amis dans la vie. Et c'était vraiment un plaisir que d'échanger avec lui. Donc merci encore, Fab. J'espère que vous allez passer un aussi bon moment que nous. Bonne écoute. T'aimes bien cet exercice ?
De quoi ?
Bah, de répondre à des questions et pas de les poser.
C'est pas assez bizarre. C'est trop cool, parce que d'un autre côté, c'est un vrai exercice de lâcher prise. Par rapport à ce que je fais habituellement, où je suis plutôt en contrôle du truc. Même si... je me rends compte plus ça va, plus je gagne en expérience que en vrai je contrôle pas du tout les interviews que je fais, c'est juste... c'est plutôt une danse, tu vois, donc il y a un peu il faut savoir parfois laisser l'autre l'idée, etc. Et moi j'aime bien parce que je sais pas du tout à quelle sauce tu vas me manger, donc c'est cool. Faut YOLO
comme on dit. T'es parti?
Bah oui, ça tourne, hein, tu sais.
Super. Pour ce nouvel épisode, j'ai la joie et j'ai un peu le trac, j'avoue, mais en même temps mêlé de forte excitation d'interviewer l'unique Fabrice Florent. Non. Ça va, Fab?
Oui,
très c'est bien. Un peu bizarre parce qu'on se connaît bien et ça fait longtemps qu'on parle du podcast, mais...
Tu m'avais pas dit que tu voulais pas du tout interviewer tes amis?
Bah ouais, mais c'est vrai. Et quand tu m'as dit « vas-y, je suis chaud pour le faire » il y a pas très longtemps, je me suis dit « ça va être l'exception qui confirme la règle ».
Ok.
Bah surtout que t'as un parcours de vie et sur ton intimité, comme on en parle en tant que pote, qui est hyper intéressant. Et puis en plus, il y a un vrai truc, c'est que j'ai beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Quand je leur demande sur Insta qui c'est que vous avez envie de voir, d'entendre dans le podcast, tu reviens extrêmement souvent.
Mais c'est fou ça. Ah, c'est parce qu'on a parlé d'On the Verge sur Mademoiselle, non?
C'est ça, il y a 3 ans, quand j'ai créé le podcast et que tu m'as gentiment guidée sur cette voie-là. Et c'est vrai, mais c'est revenu.
Je suis ton guide.
C'est clair, tu ne peux pas être mon père, mais tu es mon guide. Fab, donc j'ai un peu préparé, mais pas tant que ça.
Okay.
Je vais te poser quand même la toute première question que je pose à tous mes invités. Fab, quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité ou à l'érotisme?
Alors, il faut savoir que je suis né en 1977, que j'ai donc aujourd'hui 44 ans, bientôt 45, et que dans les années 80, sur TF1, à 20h, je crois, 19h30 ou 20h, il y avait une émission qui s'appelait le Colaro Show. Et tous les samedis soirs, il y avait une séquence. Je me dis, en fait, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 40 ans, mais ça paraît tellement ovniesque, où il y avait une sorte de séquence avec des acteurs qui jouait une sorte de mauvais scénario qui ressemblait à un porno des années 80, et une meuf qui finissait systématiquement par se mettre à poil. Voilà, avec une musique très langoureuse qui était toujours la même en plus, tu vois. Donc tu savais que quand la musique se mettait en route, c'est que la meuf allait commencer à se déshabiller. Et moi, je me souviens très bien de regarder
ça. Et t'as quel âge à peu près à ce moment-là?
Je sais pas, je crois 6 ans, tu vois, 5-6 ans, quoi, tout petit. Et de ne pas comprendre ce qui se passe entre les images que je vois et l'érection que j'ai dans mon pyjama, quoi,
ouais,
tu vois,
bien sûr.
Et de me dire ok, c'est pourquoi, tu vois, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Et je crois que ça a vraiment été mes vraiment mes premiers émois sexuels, quoi. Tout en ayant un peu ce truc de... Tu vois, par exemple, j'entendais les adultes parler des meufs qui avaient des belles jambes, etc. Et là, je comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi ça vous excite, une meuf qui a des belles jambes ?
Ça ne fait pas écho. On parlait librement de sexualité chez toi ?
Non.
Pas du tout ?
Non. Tu sais, je fais partie de... Dans ma famille, c'était... Donc, je l'ai dit tout à l'heure, je suis un peu vieux. quand la télécommande est arrivée pour la première fois, la télécommande à télévision est arrivée pour la première fois, mes parents faisaient ce truc de, dès qu'il y avait une scène de sexe ou un peu trop chaude, ils faisaient ça et en fait, ils changeaient de chaîne.
Et encore, quand tu dis ça, c'est des films à grande écoute, quoi. Donc, ça restait...
Oui. Ah, wow. C'est juste dès qu'il y avait un moment un peu chaud, tu vois...
Ils zappaient.
Ils pouvaient zapper.
Donc, à la question, on parle de sexualité, non, pas du tout. T'es l'aîné d'une fratrie. Ton frère, ta sœur, quand vous commencez à être jeune enfant, pré-ado, vous parlez un peu de sexualité entre...
Pas du tout. Non. Ça n'est pas un sujet. Pas du tout un sujet. Ma mère m'avait offert une sorte de bouquin qui, un peu en mode « Il était une fois la vie », tu vois, pour expliquer la reproduction. Mais en fait, après, quand elle m'a expliqué plus vieux que ma mère donc a 73 aujourd'hui, quand elle a commencé à fréquenter mon père, elle avait 20 ans, tu vois, elle était convaincue que si elle l'embrassait, elle allait tomber enceinte.
Ah ouais.
Donc on vient de là, tu vois. Et mon beau-père, si j'ai bien compris, a offert à mon daron le jour du mariage un manuel d'éducation sexuelle et un tube de vaseline.
La dot.
Fast forward, 40 ans plus tard, je me retrouve avec ma fille à regarder Sex Education sur Netflix, quoi.
Oh, le gap.
Lina, donc ma fille aînée qui s'appelle Lina, elle a 12 ans, 13 ans, je crois, la première fois on regarde Sex Education. Et tu vois, moi, je l'ai pas vu, je sais pas. Je me dis juste, bon, bah, c'est Netflix, donc forcément, ça va, quoi. Première scène, direct levrette. Et donc, j'ai regardé sa mère à l'époque, j'ai fait... Oh, bon, bien, nous sommes partis. Let's go. Et en fait, ça a amené plein de questions
trop
intéressantes.
Et puis vous êtes, on en parlera un peu plus tard, mais t'es séparé de la mère de tes enfants et vous restez un couple parental qui est ouvert à la discussion. Et...
En tout cas, pas fermé, quoi.
Voilà. Bah, comment ça se passe, toi, la prépuberté, la puberté, quand ton corps change? Comment tu vis ça?
Alors, pour commencer, j'ai très très peu de souvenirs, en fait,
de cette période-là,
de mon enfance, de ma préadolescence. Je me suis fait harceler au collège, en fait, et c'était pas très cool. Donc il y a pas mal de choses qui sont parties, tu vois. Je me rends compte, en fait, que j'étais pas mal dissocié de qui j'étais, quoi, tu vois. Écoute, et globalement, en fait, j'ai pas beaucoup de souvenirs, si ce n'est que j'ai été pubère, je crois, assez tard par rapport à des copains, tu vois. Et donc, il y avait toujours ce truc de « Ok, en fait, t'as une plus petite bite et t'as pas de poils. » Et donc, t'as toujours ce truc de « Comment tu fais pour survivre, en fait, dans ce monde, tu vois, où les garçons sont en train de se la mesurer, tu vois. » Et d'un autre côté, je faisais du basket et c'était très cool parce que il y avait un peu ce truc de douche collective, tu vois, qui permettait aussi de... Tu vois, de pouvoir désacraliser le truc. Mais ouais, j'ai joué à touche-pipi avec mes potes, quoi, tu vois. On se touchait la guiquette, tu vois, très clairement, pour être très clair.
Ça se passait dans ces moments-là, ça se passait comment? Est-ce que tu fais partie de la team? Parce qu'il y a plusieurs teams. Hein. Ceux qui se masturbent.
Fait tellement expert.
Ah bah, il y a ceux qui se masturbent entre eux.
Ouais.
Devant un porno et donc c'est bon, tu vois, soit c'est chacun en randonnion, soit effectivement on touche un peu les potes mais ça reste fixé sur un porno, soit il y en a qui vont un peu plus loin dans la découverte et qui vont reproduire des scènes entre eux.
Ah non, non, c'était juste on se tripotait la nouille, quoi, tu vois. Tu sais, il y avait aussi ce truc de oh putain, il y en a un qui arrive à éjaculer.
Ouais.
Et d'un coup d'un seul, le mec il est au-dessus, quoi, tu vois.
Ah ouais, il a gagné un step, il a une médaille. Ouais.
Et moi je crois que pendant très longtemps, il n'y a rien qui sortait,
ouais,
quoi, tu vois.
N'arrive pas, ouais.
Et donc j'avais un peu ce truc de un jour j'y arriverai, tu vois. Mais en fait, j'ai souvenir que cette période-là de un jour j'y arriverai, elle est restée, bah, tu vois, trop longtemps dans ma tête, en tout cas. Je ne sais pas combien de temps, mais sans doute beaucoup trop longtemps par rapport à l'idée que j'avais de il faut maintenant être un bonhomme, quoi, tu vois.
Ouais. Ça dépend chez les garçons, mais effectivement, quand la puberté arrive, ça peut arriver au bout d'un an ou deux, le temps que le corps et la physiologie se mettent en place.
Mais c'est surtout qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle, il n'y a pas de sex education, il n'y a pas de compte Instagram à l'époque. Donc en fait, tu es juste enfermé entre guillemets avec tes potes, il n'y a pas Internet.
Oui.
Donc tu n'as même pas la possibilité d'aller chercher
c'est
comment
ce que
ça se passe.
Je t'avais demandé, c'est comment vous aviez un support masturbatoire. Donc est-ce que c'était une VHS trouvée chez un daron quelconque? Plutôt des magazines.
Non, même pas. Non,
même
non,
pas.
C'était juste. Non, même pas.
C'était du jeu entre vous, quoi.
Ouais.
Ouais.
Et en fait, le porno, pour le coup, c'est un délire parce que t'avais un peu ce truc de comment faire pour trouver du porno à l'époque. Donc,
t'avais la quête avant tout.
T'avais la quête du porno, c'était un vrai truc. Aujourd'hui, c'est facile en fait. Tu vois, tu vas sur Pornhub et tout, c'est extrêmement simple. Tu peux trouver de tout. Mais en fait, à l'époque, la seule source de porno possible, c'était soit le vidéoclub, mais en fait,
faut avoir 18 ans déjà.
C'était compliqué. Je sais qu'il y avait un gars, mais qui n'était pas dans mon collège, dont le père avait un vidéoclub et donc.
Il y avait un trafic.
Ça fait organiser un trafic.
Évidemment.
Mais je ne le connaissais pas, tu vois. Il ne faisait pas partie de ma bande. Après, Internet, quand Internet est arrivé, effectivement, tu avais accès à toute une source de photos.
Ouais, mais ce n'était pas simple parce que souvent, les ordis étaient à l'école, tu vois.
Ouais.
C'est rare que tu avais un ordi à la maison. Donc
Pour le coup, là, j'étais plus vieux, tu vois. Donc j'avais déjà passé 18 ans. J'ai découvert Internet en 95, donc j'avais 17.
Ah ouais.
Tu vois, j'étais déjà. Mais en revanche, ouais.
Oui, donc la quête de trouver l'image, enfin en tout cas le support.
Quelle galère. Et en fait, je me souviens très bien que mon daron, il y avait tout un truc pour aller. Mon père ne sait pas, on n'en a jamais parlé, lui et moi, tu vois. Si un jour il écoute ce truc, ça va le faire marrer. Mais je sais qu'il avait acheté des Playboy ou des trucs comme ça, tu vois, qui planquaient. J'avais trouvé le truc pour aller trouver les Playboy parce qu'il les avait planqués dans un pote.
Et en plus, les Playboy, ça restait quand même très soft. Enfin, ouais. C'était des images érotiques.
Je crois qu'à l'époque, il y avait la meuf, l'ex-femme de Jean-Marie Le Pen.
Bien sûr, la mère de Marine Le Pen.
Qui avait posé. Et mon daron s'était fait un kiff de l'acheter.
Il y en a beaucoup qui s'ont fait un kiff de l'acheter. tu le trouves sur le bon coin.
Écoute.
Un peu plus cher que les autres, mais ouais.
Voilà. Et je crois que c'est pas impossible. Avec le recul, tu vois que j'ai peut-être dû me branler.
Magnifique, magnifique.
Putain,
okay.
Quelle vie. Bon, à l'époque, Jean-Marie Le Pen était certes une figure politique, mais il n'était pas du tout. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus tard qu'il a commencé à sortir du game, quoi. Avant, c'était juste un zinzin, quoi.
Ok. Donc ça, c'est cette période adolescente. Bon, tu parles pas du tout de sexualité avec tes parents, c'est avec tes potes où c'est beaucoup de jeux, de balbutiements, de touche pipi, etc. C'est assez évident pour toi que c'est les filles au début.
Ah oui. Mais j'ai zéro succès avec les filles.
Ok.
Au collège.
Genre rien.
Rien ne s'est passé. Rien. Que dalle.
J'ai des grands yeux, genre zéro.
Que dalle. Et c'était pas faute d'essayer, tu vois, de draguer des filles et tout.
T'as eu des amourettes? Tu t'es.
Même pas.
D'accord.
Même pas, vraiment. Le collège, c'est juste un long tunnel de frustration et de. Et en fait, je fais partie de la bande des nerds, tu vois, où. Moi, ma passion, c'est les comics, tu vois, à l'époque.
Ok.
Rien. Et en fait, rien du tout, rien.
C'est
je crois
menti.
Que j'ai embrassé pour la première fois une fille en CM2.
Ok.
Avec la langue et tout, wesh.
Ah, waouh.
J'avais trouvé ça beaucoup trop mouillé, c'était chiant.
Oui.
Et CM2.
Mais c'était quoi? C'est que tu reproduisais
bien sûr.
Un truc que tu avais vu?
Ouais, il y avait un peu ce truc de ok, si tu m'embrasses avec la langue, quoi. Tu
d'accord.
Vois. Je me souviens très bien d'ailleurs que j'avais embrassé la fille dans les toilettes et puis après j'avais bu de l'eau en fait parce que j'avais trouvé ça chelou. Et en fait, tout le collège est une sorte d'inexistence totale.
Et tu te masturbes toutefois?
Pas trop en fait. Hein, tu vois, ça arrive, je crois que c'est un petit peu, mais plutôt vers la 4e, 3e, quoi, tu vois. Mais c'est pas ouf.
T'arrives au lycée?
Ouais.
Comment ça se passe là? Tu as 15-16 ans, ton corps commence à prendre un peu plus.
Alors en troisième,
ouais.
Donc j'ai fait du basket pendant très longtemps, de mes 6 ans à la 6e à peu près. Et après, il n'y avait plus d'équipe. Tu vois, à l'adolescence, les gamins arrêtent de jouer et tout. Et en fait, je me reprends d'amour pour le basket. Avec la Dream Team qui est aux Jeux Olympiques de Barcelone, tu sais.
Mmh.
Et donc, il y a un énorme essor médiatique et tout. Et d'un coup d'un seul, je me rends compte qu'en fait, j'ai plein de potes autour de moi au collège qui sont chauds pour remonter une équipe. Donc, en fait, je monte une équipe.
Ah, trop cool. Donc là, t'es en troisième.
en troisième. Donc, en gros, pendant cette troisième-là, je monte l'équipe et on recommence à jouer au basket en seconde, quoi.
D'accord.
Et en fait, je ne m'intéresse pas aux filles. Je suis focalisé sur le basket.
Full basketball.
Full basket. Okay. Ça, les meufs, à l'époque, ne m'intéressent pas. J'ai vraiment ce truc de... Non, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est mes potes. Tu vois, j'ai un peu ce truc, je crois, qui arrive vers 12-13 ans, où les garçons, ils ont un peu ce truc de « Non, mais les filles, c'est de la merde. » Et... Moi, j'ai vraiment ce truc de « J'ai mes potes, j'ai mon équipe de basket, c'est mes copains. Le collège, ça n'a pas été une période très cool pour moi en termes de rapport avec les mecs, etc. Et je suis hyper heureux d'avoir ma bande de potes, quoi. Donc, j'évolue là-dedans et je ne m'intéresse pas du tout aux filles. Et en fait... en revanche, mes potes s'y intéressent énormément, tu vois.
Ouais, et ça te saoule.
Ça me saoule. C'est-à-dire que, alors, mon cousin notamment, qui fait partie de mon équipe de basket, qui a 2 ans, 1 an et demi de plus que moi, tu vois, donc avec qui on a grandi, il vivait dans le même bled que moi et tout. On a un peu grandi comme, tu vois, petit frère, grand frère, quoi. Fait partie de l'équipe. Et lui, en revanche, il a 1 an et demi de plus que moi et lui, il est chaud, quoi, tu vois. Il veut vraiment draguer de la meuf et tout. Et il organise un réveillon de Nouvel An, tu vois, on faisait tous les réveillons ensemble et tout. Et en fait, il organise un réveillon de Nouvel An et à ce réveillon, il invite les filles de l'équipe de volleyball. C'était un club omnisport, tu vois.
J'ai Jeanne et Serge dans la tête.
Exactement. Bah tu l'as. Mmh. Et en gros, ces filles arrivent et moi je suis ultra saoulé parce que je me dis, c'est sûr, ça va changer la bande.
Tu voulais
ça
faire
va changer
un réveillon entre potes,
ouais,
toi,
c'est ça.
Bien sûr.
Et en fait, effectivement, bien avant minuit, tu vois, ça commence déjà à choper,
ça
se roule des pelles et tout. Et moi je suis là, mais.
C'est le moment des slow et tout.
Quel est le. Comment on a fait pour vraiment en un an de temps, tu vois, changer du tout au tout? Je ne comprends pas. J'ai. À l'époque, je crois 16-17, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, quelques mois plus tard, il y a dans cette équipe cette fille qui sort avec un de mes potes à l'époque, qui se fait larguer comme une grosse merde par mon pote parce que mon pote était un connard, quoi, avec les meufs. Mais en revanche, ça m'a permis de pouvoir faire sa connaissance, tu vois. Et donc, c'est ma future femme.
MDR.
Et donc elle a 15 ans et moi j'ai 17 ans et en fait on sort ensemble donc tu vois le réveillon c'était en mai c'était en décembre pardon et on est sortis ensemble en mai.
D'accord, donc 5 mois après vous sortez ensemble. Comment ça se passe? C'est tu tombes amoureux d'elle ou les choses se font?
Ouais, je tombe très vite amoureux d'elle, moi je sais pas, j'ai vraiment ce truc de en fait cette meuf elle est trop cool et en même temps je comprends pas pourquoi elle reste avec mon pote qui était certes un pote, mais aussi un connard, tu vois. Et je lui disais, mais t'es un connard. pourquoi tu te comportes comme un connard avec elle?
C'est toi qui la drague?
Non.
C'est elle qui te drague?
Non.
Pas du tout.
C'est mon frangin, qui a donc l'âge de...
De ton ex-femme?
De mon ex, qui traîne dans sa bande et qui finit par faire l'intermédiaire sans que je lui ai jamais demandé quoi que ce soit.
Donc c'est lui qui fait à l'ancienne, ouais, mon frère il trouve pas mal, etc.
Exactement.
Etc. Okay.
Et je sais pas, il a capté.
Le truc.
Moi je lui ai jamais rien demandé, je lui ai pas parlé, parce qu'encore une fois, il y avait vraiment ce truc de... On n'en parle pas, quoi, tu vois.
Okay.
Et mon petit frère, il traînait avec moi, et pour moi, il y avait un peu un côté, c'était l'œil de Moscou, quoi, tu vois. Parce qu'il m'avait déjà fait des coups. On en a reparlé d'ailleurs récemment, c'était intéressant. Il me faisait des coups où il allait me débiner la gueule auprès de mes parents, quoi, tu vois, alors qu'il traînait dans ma bande.
Et donc il fait le job entre vous deux?
Il fait le job, et en fait, en plus, moi je suis nul, je vois rien. Je me souviens très bien qu'on est allé passer genre une journée à la mer avec toute la bande, tu vois. Et Kat, donc à l'époque, elle me demande si je veux qu'elle me passe de la crème, et je suis non, ça va, c'est bon, je garde mon t-shirt.
Ouais. Dans les
tellement.
Ouais, mais ouais.
Je suis le mec de super grave, quoi. Tu
c'est
vois.
Ça, c'est ça. Ouais. Ellipse de temps.
Oui.
Vous commencez à sortir ensemble.
Ouais.
Donc
très vite, hein, en fait, ça se joue en 15 jours.
Ah oui, ok, rapidos.
Voilà. Ouais.
Comment ça va se passer cette première fois entre vous?
Parce
que elle a déjà eu un peu d'expérience.
Ouais, elle a eu une histoire, tu vois, avant ça.
Ok. Toi, les meufs, à part en CM2,
Niette.
Rien. Donc elle est genre, elle arrive, c'est genre.
Tout nouveau.
Tout nouveau. Terre vierge.
De A à Z.
Ok. Donc, comment se passe vos premiers rapprochements? Est-ce que t'es paumé? Est-ce que t'es...
Non, je suis pas paumé. J'adore ça.
Ok.
J'ai vraiment ce truc de... Enfin, je crois pas être paumé.
Tu vas te renseigner un peu? Parce que j'imagine que par...
Non.
au début vous embrassez et puis au fur et à mesure vous allez flirter ensemble. Est-ce que tu cherches à savoir comment il faut faire?
Non, non, c'est juste, en fait, je compte sur elle parce que je sais qu'elle a déjà une expérience. Et en plus, je suis hyper ouvert avec elle, tu vois. Je fais pas le mec, tu vois. Je lui dis juste, bah moi, c'est ma. J'ai pas encore fait, tu vois, donc j'espère que le jour où on le fait, tu sauras me guider, toi. Et t'es là, t'inquiète, frère, je sais. Et en fait, c'était cool aussi parce que je me suis mis en totale vulnérabilité avec elle. J'ai pas du tout fait le gars, tu vois, ça m'intéressait pas. Et puis, c'était pas mon mood, en fait, en plus, à l'époque.
Okay.
Parce que je crois qu'en plus, j'avais un peu ce truc de. En fait, je pars du principe que pour être bien avec toi, il faut que je sois moi-même. Bah, je vais pas commencer à jouer un rôle à la con, quoi.
Super.
Donc, j'ai pas joué un rôle à la con du tout.
Et ça arrive quand dans votre histoire, vos premières fois et votre première fois ?
La première fois, ça arrive après les. Donc, on est sortis ensemble en mai et moi j'étais ultra chaud, franchement. Elle était là. Non, non. En fait, on a passé tout l'été à. Préparez-vous, les jeunes. À s'envoyer des lettres postales et à s'appeler, parce que le téléphone portable n'existait pas, calmez-vous bien, de cabine à cabine.
Oh, waouh!
On se donnait rendez-vous à 19h.
Bien sûr, à la cabine.
À la cabine. J'avais le numéro de la cabine et je l'appelais.
Ok.
Il s'avère qu'il y a eu un orage dans le sud, elle était dans le sud, tu vois, que la cabine téléphonique s'est fait défoncer la gueule par un sapin qui lui est... Et en fait, un soir, elle a pas rep. J'étais là, c'est fini! C'est la fin! Et en fait, elle a réussi à trouver le numéro de la location où on était.
Ah ouais, t'es en
vacances.
Pour
finir par trouver...
C'était vraiment la mission. Maintenant, tu fais un texto, mais...
Wesh. Vraiment.
Oh là là.
Les jeunes, vous savez pas ce que vous avez.
Bah ouais.
Mais ouais, ouais, on faisait ça, on s'appelait de. Et donc en fait, on a. Moi, j'étais parti un mois pendant tout le mois d'août, donc en fait, on s'est pas vu pendant le mois d'août. Elle était partie, si j'ai mon souvenir, genre 15 jours avant juillet, donc on s'est pas vu pendant un mois et demi. Où on s'envoyait des lettres de ma. Et en fait, en rentrant.
Donc en septembre, vous faites l'amour pour la première fois.
Voilà.
Et là, pour toi, c'est l'entrée dans ta vie sexuelle active.
Ah, mais moi, je ne touche plus seul après ma première fois. Mais vraiment. Je promets.
Donc en lévitation.
Mais vraiment, j'ai vraiment ce truc de ok. Déjà, un, c'est trop cool. Deux, c'est mouillé, mais c'est marrant. Et c'est mouillé, c'est chaud, mais c'est marrant.
Comme le bisou de CM2.
Exactement. Et trois, en fait, c'est trop cool parce que ça. Il y a un partage et il y a une connexion, quoi. Voilà, et je suis un bonhomme.
Ça y est, je suis un bonhomme. T'as passé le cap. Comment tu l'appréhendes, ce corps féminin? Ça te... Quand t'es avec elle la première fois?
Bah juste, je suis hyper curieux, donc je pose plein de questions.
Et ça.
Je suis vraiment en mode docteur Maboule, quoi, tu vois.
T'imagines.
Mais je crois que d'une manière générale, en fait, j'ai été hyper curieux de qui elle était très vite, tu vois. Et je me rends compte aujourd'hui que je suis hyper curieux des gens. Mais j'étais d'autant plus hyper curieux d'elle que... En fait, j'étais amoureux d'elle. Donc en fait, j'avais envie de connaître un petit peu qui elle était. Et en fait, assez rapidement, tu vois, pour moi, elle a été une personne comme une autre, quoi, tu vois. Elle n'a pas été une meuf ou ma meuf qui est différente de moi, machin. Non, c'était juste, on est égaux, quoi, c'est cool.
Ok. Vous rentrez dans votre vie sexuelle active, donc toi, tu as 18 ans, 17-18 ans.
Bientôt 18, ouais, 17 et quelques.
Elle a 16 ans.
Elle a 16, ouais.
À cette époque-là, comment va rentrer la contraception dans votre vie? Parce que c'est vrai que, pareil, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Mmh. Comment vous allez trouver des moments aussi pour faire l'amour? Parce que vous t'habites chez tes parents, elle aussi. Comment vous allez créer votre intimité?
C'est tellement une galère.
Bah ouais.
L'amour à l'adolescence, c'est terrible.
Enfin, le sexe surtout.
Le sexe à l'adolescence, oui, pardon. Écoute, en termes de contraception... En fait, si j'ai bon souvenir, je crois qu'elle a déjà la pilule à l'époque, où... parce qu'en fait, elle a de l'acné. Enfin, tu sais, c'était ce truc,
oui,
où on filait
assez automatiquement, ouais.
On filait la pilule assez automatiquement aux meufs. Mais en fait, je crois que pendant très très longtemps, on va utiliser des capotes, en fait, tu vois.
Oui, parce que toi, tu fais partie de cette génération aussi où l'école avait quand même une part. Enfin, après, je sais pas dans ton établissement, mais on sensibilisait pas mal quand même au VIH.
À l'époque, ouais.
Dans ta génération, c'était les capotes à 1 franc.
Je fais partie de cette génération qui a été. Enfin, donc le sida est arrivé dans le grand public, on va dire, autour de 85-86, quoi. Et moi, j'ai vraiment grandi avec l'idée que, ok, en fait, en faisant l'amour, tu peux mourir.
Exactement.
Quoi. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui.
Et puis les médias faisaient beaucoup. Enfin, tu sais,
c'était énorme.
Beaucoup de campagnes. Ouais.
Énorme, énorme.
Donc capote et pilule dès le départ dans votre,
ouais,
dans,
ouais,
votre intimité.
Ouais. Et puis jamais déconné avec la contraception, quoi. Tu vois, il y avait vraiment ce truc aussi de. Bah non.
Non.
Not possible.
Ok.
Tu vois, quand j'entends des couples aujourd'hui qui font en fonction de la lune, de machin, des cycles, de la température et tout, je les regarde avec des grands yeux. Qui êtes-vous ?
Que faites-vous ?
En revanche, pour tout ce qui est trouver des lieux, alors ça, c'est un délire.
Ah bah, j'imagine. Donc, ça, voiture ?
Voiture.
Quand t'as eu ton permis ?
4L. Bien. À l'arrière de la 4L, mon gars. Délire. Dans le champ, à côté de chez mon ex. Horrible. Ça piquait et tout, c'était terrible. Quelle idée.
Évidemment, quand les parents sont pas là, quand les fenêtres sont de pas tir là... à base de bam bam.
Exactement. Mm-hmm. Où il y avait vraiment une forme d'organisation.
Ah, cet espoir. Hein.
Ouais. Et donc, écoute, je vais te raconter cette histoire.
Vas-y.
Que je vais mettre, que je vais donc mettre dans ton podcast. Ad vitam.
Quel suspense.
Je l'ai raconté sur Mademoiselle de façon très, de façon anonyme. En gros, on avait une fenêtre de tir chez moi, c'est l'occasion de le dire. chez moi, le mardi, entre 18h, genre 17h et 18h, quoi, tu vois, vraiment, clac, 17, où il n'y avait 18, personne, okay. Tu vois.
Tes parents pas rentrés du boulot.
Ma mère n'était pas là, mon père non plus, frère, etc., soeur, frère, sœur et tout.
Ok, c'était maintenant.
Il y avait une orga pour faire en sorte que personne ne puisse ouvrir la porte de l'extérieur.
Ok.
Donc en gros, tu foutais la clé dans la porte d'entrée et je fermais le verrou du garage, tu vois. Ce truc-là, on le fait très régulièrement et tout, ça marche nickel et tout. Jusqu'au jour où j'oublie de fermer la porte du verrou. On fait nos petites affaires et tout, machin, machin. Et en fait, en plein milieu, je vois ma mère. Donc en fait, en gros, avec mon frère, on avait pris cette très mauvaise décision. Si vous nous entendez, les jeunes qui nous écoutaient, ne faites pas ça. On avait fait agrandir notre chambre autour de 13-14 ans, tu vois, et on n'avait pas mis de porte.
Ok.
On avait un espace commun, tu vois, on pouvait jouer ensemble à la console et tout.
Ok.
Mais en gros, il n'y avait pas de porte.
Ah oui, donc c'était ouvert.
Donc c'était ouvert, tu vois. Donc vraiment, tu pouvais rentrer dans la chambre comme ça. Et en fait, on est dans une position assez particulière avec ma copine à l'époque où effectivement, donc pour t'expliquer, je suis allongé sur le dos, elle est au-dessus de moi avec globalement elle fait dos à moi.
D'accord.
C'est-à-dire qu'elle a la chatte globalement vers l'extérieur, n'est-ce pas ?
J'ai l'image.
Et à un moment donné, ma mère sort sa tête
de l'encadrement
de la palissade là, comme ça. Et donc, bah moi, je ne la vois pas. Ma chérie la voit. Et elle lui sort ces mots. Bonjour, madame.
Dans le plus grand des calmes, sur ta teub. Bonjour, madame.
Ma mère. Ah, désolé. Elle s'en va. Donc déjà, moi, j'étais là, mais qu'est-ce qui vient de se passer ? C'est vraiment très chiant parce qu'en fait, on n'a pas pu finir.
Bah non, du coup.
Quatre qui ne savaient plus où se mettre.
Tu m'étonnes.
Ma daronne. Qu'est-ce que je fais avec ma daronne ? Je vais la voir.
Donc vous arrêtez tout, ouais. Je te rhabille.
Rhabille, machin. Je vais la voir.
T'es comment là ? T'as honte ? Tu te marres ? T'es comment ? Parce que vous n'avez jamais parlé de sexualité avec ta mère.
Non, non, je crois que j'ai honte en fait. Tu vois, j'ai honte et en même temps, il y a un peu ce truc de pourquoi t'es venue quoi ? Tu vois ? Elle a forcément dû m'entendre, tu vois ? On n'en a jamais reparlé, elle et moi, tu vois ? Mais justement, tu vois, t'as dû entendre. Enfin, tu vois, est-ce que vraiment c'était
nécessaire que tu passes ta tête
comme le chat Schrödinger en fait. Tu vois, est-ce que t'avais besoin d'ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y avait dedans, quoi. Apparemment, elle a eu besoin d'ouvrir la boîte. Et donc, je vais voir ma mère. Et elle était en train de balayer de façon
complètement compulsive et frénétique.
Oh là là. Et je lui dis, écoute, je suis désolé en fait. Je croyais que t'étais pas là en fait. Elle me dit, non, t'inquiète pas.
J'ai rien vu.
Genre, faisons comme si de rien n'était. Et en fait, on a toujours fait comme si rien
n'était. Ah, waouh. Ça va faire un truc quand même, enfin, toi qui es aujourd'hui parent, d'avoir l'image de projeter, tu vois. Il y a une chose de le savoir et c'est autre chose de le voir, quoi.
Mais encore une fois, je ne comprends pas pourquoi elle vient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ma...
Mais peut-être qu'elle n'arrivait pas à... Tu sais, à...
Pour moi, il y a vraiment ce truc de... Forcément, il est avec cette fille depuis quelques temps. En fait, forcément, ils ont baisé ensemble, quoi, tu vois. Et peut-être, effectivement, qu'elle se disait, bah, peut-être pas.
Enfin, en même temps, comme tu le disais, ta maman, elle pensait que quand on embrasse un garçon, on pouvait tomber enceinte.
Oui, mais bon, non, mais
bien sûr, quand...
bien
oui,
plus
mais
tard.
Je veux dire, son degré aussi de naïveté, d'ouverture. Tu vois, peut-être qu'elle s'est dit que c'est. Peut-être que non.
Peut-être. Mais en tout cas, bah, elle a appris. Elle a vu.
Ah, l'image, ça m'a brûlé la rétine. Ah ok. Donc, Avec Kat, vous
Coucou
commencez...
maman, si tu m'écoutes d'ailleurs. On n'en a jamais reparlé.
Donc vous commencez cette vie sexuelle avec Kat. Vous allez, au bout d'un moment, j'imagine, commencer à vivre ensemble.
Oui, assez rapidement en fait, parce que moi, dès que j'ai un boulot à plein temps, j'ai 21 ans en fait, quand je commence à bosser. Donc je bosse assez rapidement, j'ai fini mes études et tout, donc j'ai mon bac plus 4, j'ai pas traîné, machin. J'ai qu'une envie en fait, c'est d'avoir mon indépendance et de pouvoir trouver mon truc. Donc, au départ, je me mets pendant 6 mois en coloc avec un ami, en fait, ça se passe pas bien du tout. Et Kat, en fait, venait déjà de temps en temps, tu vois, elle vivait encore chez ses parents et tout, parce qu'elle était encore étudiante. Et en fait, quand on sort de cette coloc, on décide d'acheter ensemble un appart. Parce que Kat a la possibilité d'avoir des sous par ses parents, tu vois, par une donation, etc. Donc, où elle peut payer, elle paye la moitié de l'appart. Et moi, bah, je peux
faire
un emprunt.
Comme
tu bosses,
tu fais un emprunt, ok.
Donc on achète ce truc ensemble.
Propriétaire.
Et tu vois, on est tout jeune, hein, parce que je crois qu'on a genre 21, 22 ans, quoi. Enfin, moi j'ai 22 ans et elle doit avoir 20 ans.
Et tu sais que c'est avec elle que t'as envie de faire ta vie ?
Oh oui. C'est-à-dire que j'ai pas de...
D'autres...
Non.
Et tes potes à côté, eux, ils ont une vie sexuelle ? Vous en parlez ? Vous débriefez ? Comment ça se... Tu as ta vie avec Kat, ton intimité avec Kat, mais comment tu... Est-ce que toi, tu continues à te masturber ? Est-ce que tu...
Non. En fait, on a une vie sexuelle assez active, tu vois, donc j'ai pas forcément de besoin et d'envie de me masturber.
L'un n'empêche pas l'autre. Hein.
Ouais, je sais bien. Je dis pas... Oula, je sais. Mais c'est juste à l'époque, tu vois, genre...
Tu te satisfais en tout cas de ce que vous... votre intimité à vous.
Ouais.
Et t'en parles un peu avec tes potes ? Est-ce que vous comparez ? Est-ce que... Vous posez des questions sur vos vies actives ?
Assez peu. J'ai deux potes, notamment à l'époque où je suis à la fac, où on est assez proches, tu vois, mais, et on parle un peu, mais on parle comme les mecs parlent, c'est-à-dire juste, tu vois, tu connais, pas du tout dans le détail, pas du tout dans la pratique, pas du tout dans des tips et tout. Non, non, bah, et puis en plus, bon, je te parle de ça, c'était vraiment... tu vois, on est fin 90, quoi. Donc, on est très très loin de. Encore une fois, il n'y a pas Sex Education à la télé, il n'y a pas plein de trucs sur la masculinité, quoi, tu vois, d'ouverture et tout.
Donc, vous rentrez dans cette vie sexuelle active, tu dis assez satisfaisante.
Ouais.
Vous faites souvent l'amour.
Ouais.
Vous avez une sexualité, comme on dit, vanille.
Oui.
Tradie.
Très tradie. Ouais. Je ne sais même pas qu'il existe des alternatives.
À ce moment-là, c'est pas pareil, on en parlait très très peu. Oui. Hein.
Et en fait, le porn sur Internet, c'est encore à l'état de... c'est préhistorique, quoi,
ouais,
tu vois.
Ouais, bien sûr.
Je crois que je suis l'un des tout premiers à avoir la DSL dans le quartier, tu vois, où on vit à Lille. Et tu vois, je m'étais mis sur les listes d'attente et tout pour avoir la DSL, parce qu'en fait, moi, je travaillais sur Internet déjà à l'époque.
Précurseur.
Et les vidéos sur Internet, c'est une galère impossible, quoi. Tu vois, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas Dailymotion, il n'y a pas tout ça, quoi. Ça viendra beaucoup plus tard.
Donc, c'est en pratiquant, vous apprenez ce que vous aimez. Vous découvrez. Vous souhaitez découvrir des choses avec Kat ou vous restez sur ce que vous connaissez déjà ?
Non, bah, en fait, c'est marrant parce que je crois qu'on a. On a beaucoup appris l'un de l'autre, en fait, tu vois, de ce qu'on. N'avaient envie l'un et l'autre. Et en fait, c'est drôle parce que je crois qu'avec le recul, moi, j'ai le souvenir d'avoir beaucoup plus parlé et échangé avec elle que elle dans son souvenir, quoi.
Ok. Sur les pratiques, sur ce que vous aimiez, etc.
Sur les pratiques et tout. Tu vois, pendant très très longtemps, on n'explore rien de plus que ce qu'on connaît, quoi. Tu vois. Mais c'est déjà... C'est cool.
Et quand t'es avec Kat et que vous avez cette relation, enfin ces relations intimes, y a pas un moment en toi où tu te poses la question de dire que ça va être la seule et unique partenaire que tu vas avoir ?
Bah en fait déjà.
Parce que c'est très jeune, ouais. 20, 21 ans.
J'ai couché avec une autre fille quand j'étais à la fac, tu vois. On s'était donné des jokers.
Vous aviez le droit ?
Ouais, mais en fait, tu vois, le fait de. Je crois pendant 15 jours, en fait, on s'est séparés à ce moment-là. Et en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment un tournant dans nos vies tous les deux, quoi, tu vois. Où je m'amourage d'une fille qui est dans ma promo, qui est trop cool. Et en fait, pendant 15 jours, je suis un peu...
Je fais quoi ?
Ouais, j'ai fini par dire à Kat, écoute, je voudrais qu'on arrête, tu vois. Et 15 jours plus tard, retourner la voir en lui disant, en vrai, je voudrais qu'on continue, toi et moi. Donc ouais, mais j'ai pas eu beaucoup de relations, effectivement.
Elle a utilisé son joker, Kat, de son côté ?
Ouais, je veux pas trop parler pour elle, mais...
Oui.
y a toute une histoire. Elle a embrassé pas mal de mecs, tu vois. Mais bon, ouais, il y a une histoire, mais c'est son histoire à elle.
Ok, très bien. Donc, je veux dire, c'était enfin égalité dans votre couple, quoi.
Ah oui, moi j'étais pas du tout. Moi, tout ce que je lui demandais, c'était qu'elle m'en parle, tu vois.
Ok, pour qu'il y ait une transparence. Mm. Vous poursuivez votre jeune vie d'adulte assez rapidement. Vous allez être parent.
Oui.
Comment ça se passe la sexualité pendant la grossesse, pendant tout ce chamboulement qui arrive dans vos vies?
Moi, l'un des trucs que je lui ai partagé très rapidement, c'était que j'avais peur qu'on devienne uniquement parents,
ouais,
et qu'on arrête d'être des amants. Parce qu'en gros, moi, je te dis, notre vie sexuelle était plutôt assez satisfaisante. On continue à faire l'amour très, très régulièrement et tout. Et en fait, je crois que de ce fait-là, ça a un peu créé aussi un truc de « Ok, viens, on fait un peu un effort, entre guillemets, pour... »
Ne pas être que ses parents-là.
Voilà. Mm-hmm. Et de ce fait-là, ça a été plutôt cool. Tu vois, on a couché... Enfin, même, je me souviens très bien que à la fin, en fait, on n'en pouvait plus. Et elle, surtout, tu vois, c'était juin 2006, il faisait super chaud et tout. Elle n'en pouvait plus d'être enceinte. Et en fait, t'avais une infirmière ou une gynéco, je ne sais plus, qui lui avait dit « Ah, il faut faire la méthode à l'italienne hein. !»
Ah oui, la méthode à l'italienne, c'est ça, c'est avoir des rapports sexuels pour que le bébé...
Apparemment.
Bah si oui, parce que c'est la progestérone qui est dans Exactement. Le sperme qui va déclencher... quand on déclenche le bébé, c'est ce qu'on...
Spoiler, on l'a fait pendant un mois. On a vraiment ken comme des bêtes. Ça n'a jamais marché. Mais en revanche, tu vois, ça nous a vraiment permis de pouvoir avoir des rapports ensemble jusqu'au bout. Mm. Et même on a repris le sexe assez rapidement, en fait, tu vois.
Après les deux accouchements?
Ouais.
Les accouchements se sont bien passés?
Ouais.
C'est ça aussi, hein. C'est parce qu'effectivement, à ce micro, il y a eu des papas où la sexualité a été beaucoup plus longue à revenir, ouais. Mais parce que les accouchements étaient et traumatiques et très douloureux, avec des... Voilà, ce qui est très difficile.
Le niveau de douleur de Kat est inexistant, c'est-à-dire que c'est un robot,
je crois. Est dure au mal, on appelle ça.
Voilà, le premier accouchement notamment, elle avait, tu sais, une perf de péridurale, quoi, tu vois, et elle ne l'a pas du tout utilisée.
Oh, waouh!
Pendant tout le travail, parce qu'en fait, elle avait pas mal.
Oui, voilà,
vous voyez pas la tête d'un
homme, ah, oui,
c'est quelque chose. Et en fait, en vrai, elle en avait besoin dans le dernier quart d'heure quand... C'était le moment vraiment de pousser et de faire sortir l'infant. Et en fait, elle était là, elle appuyait, et les mecs lui ont dit « C'est trop tard, en fait, ça a pu prendre effet, là. »
Ouais, moi, surtout qu'elle est, même si t'appuies, au bout d'un moment, elle est stoppée, quand même, heureusement.
Donc, elle accouche sans péri. Globalement, elle accouche sans péri, puisqu'elle n'a pas du tout appuyé sur le bouton, quoi. Et ça a été un délire. Et pour moi aussi, à côté, parce que vraiment, je l'ai vu hurler comme je ne l'ai jamais vu hurler.
Et ce corps qui change, ce corps qui va donner naissance, ça crée quelque chose chez toi?
J'avais ultra peur, tu vois, par exemple, je n'ai jamais compris les mecs qui viennent juste en face de la chatte pour filmer ce truc. Je me dis, mais comment tu fais à un moment donné pour continuer à avoir l'image de, c'est aussi, alors certes c'est l'endroit, c'est pas pour nier le fait que l'endroit, c'est l'endroit d'où sort ton enfant, tu vois, que c'est effectivement aussi un organe de reproduction, mais c'est aussi avant tout un organe de plaisir, quoi, tu vois. Et je ne comprends pas. Donc ça, typiquement, pour moi, c'était vraiment ma hantise.
Il y a beaucoup d'hommes qui sont traumatisés de cette image.
Voilà, donc je ne voulais pas voir ça du tout.
Et
donc
tu as bien fait.
Vraiment très bien resté à côté d'elle, etc., tu vois. Mais en gros, ce qui était très marrant, c'est que vraiment... Donc on a repris, effectivement, le sexe assez rapidement. Alors je ne sais plus quand exactement, mais vraiment, ça doit se compter. C'est moins d'un mois, je crois, tu vois, donc assez rapidement. Et moi, tu vois, j'étais vraiment en mode...
Oui, c'est très rapide.
C'est comme tu veux et tout, tu vois, let's go. Et je crois qu'elle avait un peu envie... Elle était un peu dans le mode, faut remonter à cheval, quoi, tu vois. Le premier rapport est dingue parce que vraiment, j'ai ce truc où je me dis, qu'est-ce qui s'est passé avec ma tub? J'avais vraiment l'impression d'être sur une autoroute, tu vois, et que vraiment, je pouvais aller à droite, à gauche. Ouais. Et je lui ai dit, Après coup, je lui ai dit, écoute, c'est vraiment très, très large, là.
C'est très différent.
Est-ce que ça va rester comme ça et tout? Elle m'a dit, non, en fait, tu sais, c'est parce qu'il y a... Je vais faire le taf, quoi, tu vois, il faut aller rééduquer le périnée et tout, je savais pas. Toi, en tant que mec, t'es là, ok, I don't know, très bien, je croyais que c'était extensible et que non, mais non, juste...
Pas aussi, pas comme ça. Oui, il faut savoir que c'est 9 mois pour que l'utérus se remette comme il était. Et effectivement, tout le périnée, enfin, c'est normal, hein, avec l'effort, ça met beaucoup de temps, puis la rééducation permet ça, mais de resserrer les tissus, resserrer les muscles, puis s'il n'y a pas eu de petits soucis à côté, mais ouais, c'est long.
Oui.
C'est normal que ce soit large quand on y retourne la première fois.
C'est hyper important de le dire au mec. C'est-à-dire,
bien sûr, qu'il n'ait pas peur. Voilà, ça va revenir.
N'ayez pas peur, ça va revenir et c'est cool. Et en fait... C'est
pour ça qu'il faut soulager la maman quand elle va à ses rééducations de périnée. C'est excessivement important elle, la santé, sa santé à elle et la santé de la sexualité du couple.
Oui, puis pour éviter aussi que dans quelques années, elle éternue et puis qu'elle fasse pipi dans sa culotte. Quoi,
tout à fait. Donc, vous continuez cette sexualité tous les deux. Là, vous êtes à combien de... Quand vous avez les filles, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble?
2006. Donc, ça fait 11 ans.
Oui, donc ça commence à être un couple longue durée.
Oui.
Vous continuez à avoir une fréquence de rapport qui vous convient, qui vous plaît.
Plusieurs fois par semaine, tu vois. Sauf certaines semaines où tu vois, il y a des coups de barre, où il y a des machins. Ouais. Bref, ça
le
arrive.
Le stress du boulot, les enfants, tout ça.
On a monté tous les deux nos boîtes à peu près en même temps et tout, tu vois. Donc, il y avait aussi ça. Mais je crois qu'il y avait aussi ce truc. Et ça, c'est un truc que je peux dire à tous les couples aussi. C'est on avait... balisé entre guillemets notre vendredi soir où c'était vraiment notre soirée tous les deux.
D'accord.
Et en fait on faisait soit on allait au resto puis après on allait au ciné. Souvent après ça partait en
câlin.
Voilà, plus. Parfois on était fatigué donc on allait juste faire un resto et puis après on se faisait câlin. Mais globalement en fait c'était vraiment notre truc, tu vois.
Votre
et je crois
soirée.
Qu'assez rapidement on a eu ce truc de il faut à tout prix qu'on se garde une soirée pour nous en tant que couple. Parce que notre vie était complètement conne en dehors de ça, de nos boîtes, etc. respectives. Donc il y avait vraiment ce truc.
Et puis vous avez les filles, elles sont assez rapprochées.
Ah non, elles ont 2 ans d'écart.
C'est ça. Donc les enfants en bas âge, faut comme les gérer avec tout ce que ça comporte comme intendance. Donc c'est assez lourd. Puis toi, tu commençais aussi à être sur MAD et tout ça. Donc ça t'oblige aussi à être très versé sur ta vie professionnelle.
Exactement.
Donc ce vendredi-là, c'était sacré entre vous.
Exactement. Et après, j'ai quitté. Lille pour partir à ouvrir les bureaux à Paris.
Mmh.
Et donc là, c'est ouvert un autre champ, en fait, qui était hyper intéressant, qui était on se quitte et on se retrouve toutes les semaines.
Vous vous manquiez ?
Écoute, je crois que non. Et moi, je n'avais pas le temps de trop penser à elle. Tu vois, vraiment, j'étais à Paris, j'étais focus sur mon boulot. Et en gros, quand je rentrais, en revanche, j'étais toujours trop heureux de la retrouver. Et... enfin tu vois j'étais toujours
de la retrouver ou le foyer
de la retrouver elle
enfin
tu vois ça allait ensemble en
et
fait.
Les enfants et la maison et tout ça
et la famille et les enfants et c'est trop cool mais aussi de la retrouver quoi tu vois de retrouver de retrouver des câlins de retrouver la possibilité de la retoucher etc quoi
toute la semaine donc tu passais quoi 3-4 nuits seule
oui c'est ça
et la tendresse te manquait pas
non parce qu'en fait j'étais dans un truc aussi où j'utilisais entre guillemets mes jours et mes soirs de semaine pour faire des trucs. Vous avez la possibilité avec Mademoiselle d'aller faire plein de trucs culturels, d'aller découvrir plein de gens, d'aller faire des... Enfin, voilà. Et en gros, c'était vraiment, en général, je rentrais, il était minuit, 1h, tu vois, et je me couchais, je m'endormais, et je me relevais le lendemain, et c'était reparti, quoi.
Ça a duré combien de temps, cette période ?
7 ans.
7 ans.
Entre 2013 et... fin 2019.
Vous arrivez à garder aussi votre intensité intime à ce moment-là ?
Bah oui, parce que en fait, on se manque. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas, moi, je vais pas parler pour elle, hein, mais moi, j'ai la sensation vraiment que je suis trop content de la retrouver et que je suis trop content de pouvoir la toucher, que je suis trop content de pouvoir me retrouver à poil dans le lit avec elle. Et je crois que, tu vois, avec le recul, on a un peu analysé ce truc et qu'en fait, grosso modo, ces années parisiennes nous ont aussi permis de pouvoir... faire perdurer le couple, tu vois. Mmh. Là où peut-être si on était resté dans un quotidien plus classique, on se serait peut-être séparés beaucoup plus tôt, quoi.
Ok. Donc, pendant ces 7 ans-là, comment tu vis, toi, la vie parisienne aussi ? Parce que tu es à Paris, tu évolues dans un univers extrêmement féminin, voire quasi exclusivement féminin.
Exclusivement féminin. Ouais.
On le sait, hein, Matt, c'est un média indépendant qui a énormément servi les jeunes femmes. Tu as eu beaucoup de journalistes qui sont venus à toi et puis même des rédactrices web et des talents qui sont aujourd'hui des gens qu'on connaît dans la scène culturelle française. Comment tu évolues avec toutes ces jeunes femmes ? Parce que tu restes un homme, Fab. Il y en a qui peuvent te plaire, d'autres qui peuvent ne pas te plaire, d'autres avec qui tu peux avoir des coups de foudre amical, d'autres avec qui, tu vois, il peut y avoir une tension qui s'instaure. Enfin, on en avait déjà discuté, hein, des jeunes femmes qui sont dans la séduction. Comment tu arrives à gérer ça ?
Je suis pas du tout là-dedans.
Tu es le Fab du lycée qui voit pas les signaux.
Ouais. Et en fait, mais c'est vraiment dingue parce qu'en fait, pendant toutes ces années-là, j'ai pas trompé ma meuf, tu vois. Alors que j'avais, c'était un boulevard, quoi, tu vois. Et j'ai des potes à moi qui me regardaient en me disant, j'imagine qu'au moins tu t'amuses à Paris, quoi, tu vois. J'étais, non, c'est pas, ça n'est pas l'objectif, tu vois, du tout. Moi, je venais pour bosser, tu vois. J'avais vraiment ce truc de venir pour bosser. C'est juste, mais tu vois, par exemple, une fois, à une grosse teuf, il y a une lectrice de maths qui est venue et qui est venue me faire du rentre-dedans. Je ne l'ai jamais capté. Et en fait, j'avais un ami à moi qui était avec moi à ce moment-là et qui m'a dit, mais là, elle vient de te draguer de ouf, en fait.
Moi, je veux comprendre ça. C'est que tu... Parce que tu es loin d'être bête, Fabrice Florent, on le sait. C'est que tu ne veux pas le voir. C'est que tu ne comprends pas ses codes. C'est quoi le truc ?
Je ne comprends pas les codes, en fait.
D'accord. Une femme qui te montre expressément son désir, tu ne comprends pas.
Non.
T'es trop mignon, on dirait que t'as 5 ans.
Mais je sais pas, je crois que j'ai un peu ce truc de... Mais même encore aujourd'hui, tu vois, où je suis célibataire et qu'en fait, j'ai appris. Ça fait 2 ans que j'apprends ça. Mais en fait, je ne...
Tu l'expliques comment ? C'est que tu n'as pas ces codes de façon innée ou c'est parce qu'effectivement, le fait d'être mis avec Kat à...
Mais oui, j'étais tout 15, jeune, 17 en fait. Ans. J'ai pas appris ce truc du jeu de la drague, quoi, tu vois. Et quand...
T'as 15 ans de retard sur tes potes, quoi. Enfin, en tout cas de...
Même plus.
Oui, enfin... Oui.
C'est juste, j'ai jamais fait ça, j'ai découvert ça à 40 ans.
Donc, quoi accélérer, quoi. Je ne maîtrise pas tous les codes. Ok. Donc, l'expression de désir, l'expression de séduction, de drague, you don't know, quoi.
Non.
Un peu plus maintenant, là.
Aujourd'hui, ça va mieux. Mais en fait, j'ai galéré. Faut sortir les drapeaux, tu vois, pour me dire. Avec...
Donc, Ellie, on fait un petit bond en avant. Donc, effectivement, là, avec Kat, 7 ans comme ça, entre Paris et le Nord, les filles qui grandissent, vous arrivez à garder quand même ces moments d'intimité qui te satisfont. Vous restez dans une sexualité plutôt traditionnelle,
ouais.
Qui reste une sexualité de couple assez classique. Au bout de 7 ans, qu'est-ce qui va se passer pour que vous vous quittiez ?
La relation s'étiole, en fait, tu vois. Et...
Ça passe par une sexualité qui diminue ?
Pas du tout, parce que...
Parce que souvent, c'est un niveau d'alerte.
Ouais, mais pas du tout. Là, vraiment, on a vraiment fait l'amour jusqu'au dernier moment. Et la dernière fois qu'on a fait l'amour, on savait qu'on allait se séparer, tu vois.
La baisse d'adieu, elle s'appelle.
Ouais, mais en fait, on s'est regardé l'un et l'autre et on s'est dit, c'était un peu nul, hein, non ? Ouais, ça a pas mal changé. Ok, il y a un truc qui a changé déjà. Mais,
C'est joli quand les corps se disent au revoir.
Ouais, je suis assez d'accord. Et d'un autre côté, il y avait un truc un peu bizarre de... Ok, il y a vraiment un truc qui a switché, tu vois, déjà dans la relation, dans le rapport à l'autre, etc. Ça s'est fait assez rapidement. Écoute, non, on a vraiment ce truc où je crois que l'un et l'autre... En tout cas, moi, je vais parler pour moi, mais moi, de mon côté, je me suis vraiment dit, ok, nos filles sont en train de grandir. Est-ce que j'ai envie de faire ma cinquantaine avec Kat ? Et en fait, pas tant. Et je crois qu'elle, de son côté, pas tant non plus.
Qui en a parlé à l'autre ?
C'est une discussion qui a duré sur plusieurs mois, tu vois. Où on s'est questionné, re-questionné, tu vois, l'un et l'autre, à plusieurs reprises. Et en fait, il y a un déclencheur qui fait partie de notre histoire, en fait, qui est en plus complètement ridicule, qui n'a strictement rien à voir, mais peu importe. Et ça déclenche vraiment la discussion de « Ok, en fait, je crois qu'il est temps qu'on arrête. »
Et ce que tu me disais, c'est que vous n'êtes jamais vraiment gueulé, en plus.
Non.
Ça s'est fait beaucoup dans la discussion, dans le calme.
Ouais.
Et c'est...
Peut-être il manque... En tout cas, moi, de mon côté, je crois que j'ai pas vraiment de colère envers elle, tu vois. Je sais pas si elle a été capable de m'exprimer la colère qu'elle pouvait avoir envers moi sur certains trucs, tu vois.
Oui, parce que vous auriez passé quoi ? 12 ans ensemble, 13 ans ? Ah bah non, vous
25.
Avez... 25, mais n'importe quoi, moi. Oui. J'étais avec l'âge des filles, mais bien sûr.
Ah non.
25 ans.
25 ans.
Mon oui, âge.
Même... Mais même moi, quand je l'ai dit, je suis...
25 ans ?
Oui.
C'est-à-dire que t'as passé encore... Là, tu vas avoir 45 ans cette année, t'as passé plus de temps avec Kat
oui.
que seul. Tu sais que je le savais, mais là, le fait de le dire, Incroyable. Donc, vous terminez cette histoire de façon plutôt élégante. Comment ça se passe, première fois où tu vas commencer à remonter en selle et te dire « Je vais faire l'amour à un autre corps que celui de la femme avec qui je suis restée 25 ans.
C'est un délire.
Déjà, avant ça, comment tu te retrouves avec toi-même ? Est-ce que, tu vois, le porno, la masturbation, j'imagine qu'entre temps, c'est rentré dans ta vie, hein, puisque, Dieu merci, la fibre est arrivée entre temps, et oui. Les accès, les réseaux sociaux, etc. Mais comment toi, en tant que mec, tu te retrouves avec cette sexualité-là de célib ?
Bah, en fait, je suis pas célib très longtemps, parce que, en fait, je date un peu par hasard, mais vraiment par hasard, en me disant, tiens, je vais aller tester, genre OkCupid, tu vois.
Donc, tu passes par les apps.
Ouais.
Pourquoi ? Tu sais ? Qu'est-ce qui t'a motivé ?
Bah, je trouvais ça... En fait, par exemple, OkCupid, plein de meufs en avaient parlé à la rédac, tu vois. Vraiment, Mademoiselle a fait connaître énormément OkCupid en France.
En parlant de la rédac, ça, c'était une question que je voulais te poser avant qu'on parle de ta partie de célibataire. Comme beaucoup de gens, j'ai écouté l'émission qui était à l'époque animée par Sophie-Marie Laroui.
Qui navigue.
J'ai un énorme... Tu connais ma passion pour cette femme. Et Navi, que j'aime beaucoup aussi. Et au début, c'était toi. Après, c'est Louise qui gère un peu plus la régie, mais c'était toi. Hein. C'était super, parce que donc, l'émission était vraiment dédiée à une thématique sur la sexualité et c'était très, très libre. C'est vraiment les radios libres qu'on écoutait, nous, quand on était ados sur les fun radio et Skyrock. Mais est-ce que tu as appris des choses à ce moment-là ? Parce que les filles sont quand même... Enfin, tu vois, elles y vont cash, elles ont des sexualités très ouvertes, l'une comme l'autre.
J'apprends rien, en fait, dans cette émission.
T'apprends rien ?
Non, non, non. C'est juste, pour moi, vraiment le moment où je me suis senti comme un poulet sans tête, tu vois, dans cette émission, c'est quand elles ont parlé de rupture. Parce qu'en fait, je leur ai dit, mais ça ne me parle pas. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose de ce que vous me racontez, de la façon dont vous me racontez, ce que ça vous fait vivre, etc. etc. Alors j'ai appris depuis. Mais en vrai, c'est vraiment l'une des rares émissions où je me suis dit oh bah ok. Mais parce qu'en fait, en vrai, ça restait aussi assez mainstream, tu vois. Tu vois, par exemple, il n'y a pas eu une émission spéciale BDSM, quoi.
J'en ai écouté beaucoup, non, je ne crois pas.
Tu vois, ou vraiment.
Mais elle parle de spécificité dans le porno, par exemple.
Oui, c'est ça. Mais...
Des hentai, des choses comme ça.
Oui, mais ça, en fait, bah, ça, je connaissais. Enfin, tu vois, mais j'ai pas forcément pratiqué, j'ai pas forcément regardé énormément de hentai.
Oui, mais dans les articles sexo de Mademoiselle, en plus, tu les voyais
passer. J'ai appris plein de choses dans les articles sexo.
Non, mais ce que j'allais te dire, c'est ça que je voulais savoir aussi, c'est est-ce que, au-delà de l'émission qui était un podcast qui était dédié à la sexualité, tout. Parce qu'il y a eu aussi Queen Camille, qui a été une journaliste sexo chez toi et qui a.
Anouk Perry,
il y avait Anouk Perry aussi. C'était quand même la première fois qu'on parlait de sexualité de façon très libérée dans un média féminin, sachant qu'avant, c'était comment faire jouir son mec en trois étapes. Ça, c'était les Marie-Claire, les Elle, les machins, les trucs, qui étaient quand même juste dramatiques en termes de féminisme et de plaisir féminin. Et toi, t'as proposé une vision de la sexualité bon, déjà beaucoup plus appropriée pour les jeunes femmes. Et surtout, c'était les vrais mots. Et je me suis posé cette question, mais c'était même avant, tu vois, qu'on pense enregistrer ensemble, c'était comment toi, ça a eu un impact dans ta propre sexualité ?
Mais énorme ! Mais j'ai ramené tellement de choses à la maison.
Ah bah, aïe, aïe, aïe.
Déjà, tu vois, par exemple, quand on a commencé à traiter le viol conjugal et tout, je suis allé voir Kat, en fait, en lui disant, est-ce que il m'est arrivé de te forcer tellement que, en fait, au final, j'ai fini par te violer, quoi ? Elle m'a dit, non, en fait, vraiment, c'est très... mais c'est juste que, de temps en temps, tu vois, on a un vieux couple, et donc, il faut y aller, quoi, tu vois. Mais, en fait, à aucun moment, je me suis dit, j'ai pas envie, et je vais le faire pour lui faire plaisir, quoi, tu vois. C'est ok. D'une autre manière, tu vois, j'ai dû me battre, à un moment donné, avec elle, pour lui expliquer qu'en fait, j'avais compris que notre relation sexuelle s'arrêtait pas à mon orgasme.
Toi qui éjacules.
Voilà, et qu'en fait, moi j'avais envie qu'elle jouisse aussi. Elle était là, non, moi ça va de comme je suis là, tu vois. Et je disais, non, mais en fait, j'ai lu ça aussi sur Matt, tu vois. C'est que, vas-y, on n'est pas ouais. obligé de faire comme ça, quoi, tu vois. On peut trouver. Tu voudrais pas qu'on essaie d'explorer autre chose et tout. Et pas trop.
Oui, mais après, si c'est. Enfin, tu vois, c'est pas son truc.
Mais
ou
en revanche, moi j'arrivais toujours avec mes petits bagages, tu sais. Mais tu vois, par exemple, je lui ai acheté un ferry.
Ouais.
Parce que Maïa Mazorette avait écrit un article sur il y a fort longtemps parce que Maïa Mazorette a écrit sur Mad entre 2008 et je crois 2011-2012 un truc comme ça et elle avait écrit un truc sur le ferry qu'elle avait intitulé le lance-roquette à orgasme, tu vois, donc c'était avant le womanizer, tu vois, ouais. C'était vraiment les tout premiers et en fait Kat l'utilisait très peu.
J'imagine que sur une sexualité d'un couple qui aura eu 25 ans de vie intime et commune, je pense aussi que ce rafraîchissement des bases et cette envie de tester, etc., a contribué quand même aussi à avoir une sexualité épanouie sur autant de temps.
Je crois.
Donc là, t'arrives, ça y est, t'es célib. C'était il y a finalement pas si longtemps que ça.
Deux ans et quelques. Ouais.
Tu vas sur OkCupid. Mmh. Comment ça se passe la première fois que tu dates ?
Eh bien, je date. Je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est vraiment assez étonnant. J'ai un peu ce truc de mais qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi, tu vois ? Et moi, je suis pareil, hyper transparent, hyper ouvert. Donc, en fait, je raconte mon histoire, je raconte mon truc.
Après, c'est vrai que ton histoire, elle est trouvable dans le sens où tu n'as jamais fait de secret là-dessus.
Non.
Et tu avais écrit d'ailleurs, moi, j'avais trouvé ça très émouvant, un article sur Mad où tu parles de ton divorce. Et j'avais trouvé ça très fort.
J'avais fait un article sur Mad ou sur mon blog ? Perso, je crois que sur mon blog perso.
Je me pose la question. En tout cas, j'avais lu et c'était très joliment écrit comment avec Kat, voilà, tu l'as remercié de t'avoir aidé, de t'avoir porté, d'avoir été la mère de tes enfants, t'avoir soutenu pendant toutes ces années. Et j'avais trouvé ça fichtrement émouvant parce que c'est rare. Et surtout, au-delà de ça, je me suis fait cette réflexion en me disant c'est assez propre parce que le gars, en fait, pose le truc là. Et personne ne pourra jamais lui reprocher de ne pas avoir balancé ce qu'était sa vie. Et je te dis ça en résonance parce que j'ai beaucoup de connaissances, de potes, et puis même d'auditeurs, d'auditrices avec qui je discute où, tu vois, il y a des rencontres qui se font et puis après, tu as les bails qui arrivent que tu ne connaissais pas, une ex-femme dans un coin, des enfants dans un autre. Enfin, voilà, là, je me suis dit, au moins, Fab, il arrive, il est nature peinture, quoi. Tu sais exactement...
Après, je te raconte pas tout dans ce podcast, tu vois, mais ça fait aussi partie de petite vie... privé, et en fait c'est important aussi, je trouve, de parce que souvent les gens me disent mais ça te fait pas chelou de tout raconter, en fait, mais non, je raconte pas tout, tu vois. Et là, toi et moi, on sait que je suis pas en train de tout raconter de notre vie de couple, parce qu'en fait il y a aussi des parties qui nous appartiennent,
c'est ça, qui vous appartiennent, et surtout qui, oui, enfin, dans laquelle Kat n'a pas forcément eu la possibilité d'en discuter, ou voilà, etc. Donc ça vous appartient, c'est normal.
Exactement.
De pas la raconter.
Et en fait, j'ai pas envie de raconter
cette intimité là
voilà, ça, notre vie de couple à sa place. Pour l'instant, j'ai un peu l'impression que je raconte plutôt les trucs qui me sont
bien sûr, et c'est le but,
mais bref.
Donc t'arrives, c'est Lim.
Ouais, voilà. Et en fait je tombe sur cette fille avec qui ça match de façon très très fluide, en fait, tu vois, où on finit par se dater une fois de temps en temps, tu vois, un peu en mode casual, parce que moi je suis pas du tout là-dedans. Mais en fait, au fil de l'eau, on finit par se voir le week-end. Et en fait, quand on se voit le week-end, bah, ni l'un ni l'autre, on a envie de partir. Enfin, bref. Et en fait, arrive le confinement assez rapidement, donc après, parce que en fait, on est en mars 2020. Et en fait, on se dit, bon, bah écoute, deux solutions, soit on va chacun de notre côté, et en fait, sans doute.
Ça va se diluer en deux secondes.
Soit on décide de se confiner ensemble, en fait. Et on a décidé de se confiner ensemble. YOLO.
Vous avez déjà eu des rapports sexuels avec cette jeune
femme ? Tout à fait.
Comment ça s'est passé la première fois que tu fais l'amour à ce corps-là ?
Alors, comment te dire ? J'ai l'impression d'être Indiana Jones qui découvre.
C'est ça.
Non, mais en fait, c'est une sensation assez folle de se retrouver pour la première fois avec un autre corps que celui de ta femme.
Ton épouse.
Que tu as connu pendant 25 ans. Alors, avec le recul, je ne sais pas à quel point je le connaissais par cœur, mais en tout cas, je crois qu'à l'époque, j'étais convaincu de le connaître par cœur, qu'elle aussi me connaissait par cœur, que, tu vois, on savait ce qui nous est kiffé l'un l'autre, etc. Avec le recul, je ne suis pas si sûr que ça, tu vois, mais ça, c'est une autre question, mais bref. Et en fait, c'est assez génial ne serait-ce que d'embrasser une autre bouche, quoi, tu vois.
Ouais, toucher notre peau, voir
toucher
notre
corps, ressentir d'autres odeurs, découvrir un autre corps. L'autre truc aussi qui est canon, c'est que pour la première fois, il y a une autre fille qui pose ses yeux sur mon corps, tu vois, sur moi qui je suis, sur mon sexe aussi, et c'est vraiment, je sais pas, c'est difficile de le décrire autrement que, avant ça, en fait, j'avais vraiment couché genre avec trois filles, quoi. En tout et pour tout.
Comment justement tu appréhendes ce moment où tu vas être nu devant une autre femme ?
Ah, franchement, la nudité, je m'en bats les couilles. Vraiment, j'ai un truc de très très décomplexé avec la nudité qui me vient des sports co, quoi, tu vois,
où
tu te fous à poil et c'est pas un problème. Donc vraiment, la nudité, c'est pas un souci du tout. Non, je crois que j'ai plutôt un truc de comment est-ce que la taille de ma tub te va. Enfin, tu vois, j'ai plutôt ce genre de truc, tu vois, de est-ce que t'es contente avec, est-ce que ce que je te fais te convient aussi, et en fait, tu vois, vraiment de plutôt aussi ce truc de ok, c'est trop marrant parce qu'il y a un nouveau terrain de jeu d'un coup d'un seul, de est-ce que ça te convient ce que je suis en train de te faire. Et de ce fait-là, t'as aussi en face de toi une autre personne que cette fille avec qui j'ai couché pendant des années, qui a aussi une autre appréhension de son corps, une autre appréhension du rapport sexuel, une autre expérience aussi, parce que c'est une fille qui avait mille fois plus d'expérience que nous deux réunis, si tu veux. Mm-hmm. Ouais. Ça aussi, c'est génial, en fait, parce qu'elle, elle a aussi un rapport un peu différent au sexe. Mm-hmm. Et donc, elle va aussi m'apprendre plein de trucs, tu vois.
Donc, cette relation, elle dure quelques mois. T'es épanouie dans cette sexualité-là.
Grave.
Qu'est-ce qu'elle va t'apporter, cette sexualité-là ?
Vraiment une forme de redécouvrir le sexe comme un terrain de jeu, comme je te le disais. C'est-à-dire, vraiment, pour moi, il y a un vrai truc de « Ok, c'est nouveau et c'est trop cool. » Et en fait, on apprend plein de trucs, plein de nouveaux trucs. Parce que cette fille, elle a des kinks, elle a des trucs que ma femme n'avait pas, mon ex-femme n'avait pas. Parce qu'elle a une façon de bouger, de vivre le sexe aussi complètement différente. Et vraiment, c'est trop cool, en fait. Et tu vois, je retrouve aussi une forme de plaisir et de jeu, voilà, autour du sexe.
La relation se termine. Mmh. À ce moment-là, comment toi, tu es avec la sexualité ? Est-ce que tu te dis que tu vas enchaîner, parce que tu as envie de multiplier les plaisirs, parce que tu as pris justement goût à une nouvelle peau, un nouveau corps, une nouvelle, tu vois.
C'est très drôle parce qu'en fait, tu découvres à 40, un peu plus de 40 ans, des trucs que normalement, je crois, tu découvres plutôt autour de la vingtaine, quoi, tu vois, qui est vraiment une forme d'exploration de ton corps. Et en fait, je trouve que c'est cool aussi de le faire à mon âge plutôt qu'à 20 piges parce qu'il y a un côté aussi où... Tu vois, j'ai pas de pression, j'ai pas de...
T'es prêt à recevoir toutes ces informations-là, quoi.
Exactement.
Sachant que toi, t'as bossé la théorie avec Mad pendant
énormément.
Des années.
Énormément. Tu vois, j'ai appris plein de choses aussi par Mademoiselle. Et donc, tu vois, toutes les histoires de consentement, etc., je crois que je maîtrise pas trop mal, même si t'es jamais à l'abri d'une connerie, tu vois. Mais j'ai l'impression de faire les choses plutôt le mieux possible, mm-hmm. de la façon la plus respectueuse possible pour mes partenaires et tout. Et en fait, je suis très heureux de l'avoir fait comme ça à ce moment-là, quoi.
Tu découvres des trucs un peu dingues avec tes partenaires.
Est-ce ouais. Que,
genre quoi, tu peux.
Bah, notamment une fille qui était vraiment, elle pour le coup, hyper kinky, quoi. Mm-hmm. Et qui m'a dit, alors excuse my language, hein, tu vois, mais qui m'a dit, écoute, j'aimerais bien que tu m'étouffes avec ta tub.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Moi, je viens d'un truc où c'est important pour un mec d'être gentil, tu vois. Et je n'ai pas jamais du tout expérimenté ce genre de relation
un peu en domination,
soumise,
enfin
tu vois,
okay.
domination, dominée, etc. Et je lui dis, non, je vais te faire mal.
Trop mimes.
C'est... Et en fait, heureusement aussi, tu vois, c'est que des filles avec qui je m'entends bien, parce que c'est des filles avec qui on a eu des discussions avant ça, enfin tu vois, c'est pas...
Oui, ça n'arrive pas comme ça.
C'est pas des coups d'un soir, quoi, tu vois, c'est vraiment des filles avec qui on discute d'abord, avec qui... Et donc, elles voient un petit peu le bestiau, tu vois, avant ça. Et donc, effectivement, je fais toujours en sorte d'être ultra naturel avec. Et en fait, si ça casse, bah à la limite, tant pis, quoi, tu vois, c'est qu'au moins, ça t'intéresse pas et tant mieux, quoi. Donc ouais, je lui dis d'abord, je crois que je lui dis ça en fait, je lui dis vraiment un truc du genre, mais en fait, peut-être ça va te faire mal et tout, et laisse-moi faire, mais let's go, tu vois. Et c'était trop drôle en fait, parce qu'elle m'a vraiment initié et amené à ce genre de pratique, et aussi à m'ouvrir une voie que j'avais pour le coup pas du tout explorée avant.
Et c'est quelque chose qui t'a, chez toi, qui a réveillé des choses, qui t'a donné envie d'explorer un peu plus, hein.
Ouais, carrément.
Ouais.
C'est pareil, c'était des angles... des discussions ou c'était des points morts en fait, des angles morts pardon dans mes discussions dans le sexe avec mes partenaires précédentes. Mmh. Et c'est trop intéressant, ça m'a vraiment ouvert à ok en fait
il y a ça aussi qui existe, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et t'es pas fermé
et,
à
et dominer une fille, en fait ça peut être cool,
et être dominé,
et d'un autre côté être dominé, bah pourquoi pas essayer aussi. Et en fait, en vrai, c'est cool aussi quand j'ai trouvé une fille avec qui ça plaisait. Donc si j'ai bien compris, je suis switch, j'ai découvert. T'aimes aussi bien l'un que l'autre.
Donc là, t'es un peu dans ce moment-là dans ta vie où effectivement, y a plein de portes. Mm. Et t'es un peu dans ce méga terrain de jeu parce que t'es bien avec toi, t'es plutôt aligné avec l'homme que tu es, et tu peux ouvrir toutes ces portes et essayer des trucs.
Ouais, c'est ça.
C'est beau, hein ?
Je crois que c'est une bonne synthèse.
Moi, ce que je voulais savoir, avant de revenir un peu là-dessus, c'est la transmission. Comment tu gères justement la transmission auprès de tes filles sur la sexualité? Tu parlais de sex education tout à l'heure. Comment t'as décidé d'aborder le sujet avec tes filles ados?
Je sais pas, c'est dur à dire. C'est qu'en fait, pour moi, ça n'a jamais été pas un sujet avec mes filles. Et en fait, je veux pas non plus être le père relou qui veut à tout prix parler de sexe avec elles. Surtout pas. Mais en fait, le fait qu'elles sachent qu'elles peuvent venir m'en parler à tout moment et qu'en fait, je crois qu'elles savent aussi que Mademoiselle a aidé pas mal de filles, tu vois.
Oui, bien sûr.
Elles savent que sans doute je pourrais leur répondre, soit je pourrais les mettre en contact avec des amis à moi qui pourront leur répondre éventuellement, quoi, tu vois. Et puis après, j'apprends des trucs, tu vois. Par exemple, Martin Winkler, dans un épisode d'Histoire de Daron, il racontait qu'il avait posé une boîte de capote dans la salle de bain. Mmh. Voilà, ça fait partie des trucs que j'ai piqués et que aujourd'hui, j'espère, on fait. Comme mes filles savent qu'elles peuvent avoir des capotes à moi quand elles veulent. Et tu vois, Sex Education, on s'est retrouvés à regarder Sex Education parce que, je sais plus, je crois que ma fille avait envie de regarder Sex Education, donc on s'est dit, bon, ok, si tu veux. Et en fait, c'était cool parce que ça a permis aussi de débunker des trucs qu'elle avait en tête. Et tu vois, là, on a regardé la saison 3 tous les deux.
Avec la plus grande.
Avec la plus grande.
Ta cadette est un petit peu plus,
Elle a 13 ans, elle est un peu plus introvertie. Elle est un peu plus...
Un peu plus secrète sur sa vie.
Oui, c'est ça.
Perso.
Et en fait, c'est OK. C'est pas un souci.
Mais elles savent que leur papa, en tout cas, sera toujours là s'il y a une question, désamorcer un truc.
Si elles veulent, ouais.
Et comment t'es par rapport à cette idée que tes filles et ton aîné, en tout cas, qui est en pleine adolescence, vont avoir une vie sexuelle active? Parce que moi, je repense à ta mère qui t'a chopé avec 4.
Pour moi, c'est marrant parce que j'ai un peu ce truc où... Je crois que ça faisait partie de mes peurs, tu vois, quand j'ai su que j'allais avoir des filles.
Il y a un vrai truc, ça, des darons, genre, oh non, pas ma fille, pas ouais. Tu vois, touche pas à ma fille.
Pas ma princesse.
Voilà, exactement.
Et ça, c'était le genre de truc qui m'énervait de ouf. Et en fait, je crois qu'assez rapidement, dans ma tête, je les ai imaginés être sexualisés. De me dire juste, ok, en fait, t'es encore un petit bébé, t'es encore une toute petite fille, tu vois, t'es un machin. Mais en fait, assez rapidement, tu vas avoir l'âge d'avoir des rapports. Et en fait, tu vois, à l'époque, je me souviens même que je m'étais dit, c'est très bien, tu vas sucer des bites et c'est cool, quoi, tu vois.
Alors, oh, waouh.
Ouais, mais en fait, je trouve que, tu vois, de se le dire, et de se confronter à l'idée, certes, c'est violent, mais en fait, à aucun moment, il y avait un truc pervers chez moi de ça va être super. Non, non, pas du tout. C'était plutôt, ok. Et puis bon, en plus, j'étais un poil hétéronormé à l'époque, tu vois, j'ai pas mal évolué depuis. Mais de ce fait là, tu vois, j'ai vraiment ce truc de bah en fait c'est ok, t'as ta vie sexuelle et c'est trop cool. Si t'as besoin d'avoir si t'as des questions et que t'as besoin d'avoir des conseils, en fait je suis là, mais je vais pas m'en mêler, quoi, tu vois. Donc d'être à ma place, je crois,
de support en tout cas,
ouais, si jamais il y a besoin.
Après, t'es tellement teinté de toutes ces histoires avec Mad, avec tout cet apprentissage et effectivement le fait de désamorcer, de débunker, comme tu dis, tous ces sujets sur la sexualité. Tu as sûrement eu plein d'histoires de jeunes filles de 14, 15, 16 ans qui te racontent leur histoire perso, etc. Je pense que t'es le premier public à être capable, tu vois, d'accepter ça.
Je crois, oui. Je sais pas, en fait, je sais pas à quel point c'est plus zinzin de se dire que, en fait... quand ta fille est petite, ok, mais en fait, à un moment donné, tu vas sucer des bites et au moins, ça te confronte à l'idée, ouais. T'es là, ok, donc ça va arriver, donc affronte-le et en fait, c'est ta vie. Et en
ouais,
même temps,
deal avec, quoi.
Voilà, que de se dire qu'en fait, ta fille est est la Vierge Marie, quoi, tu vois.
Ouais, mais tout ça, c'est, tu fais un pas de côté et tout ça, c'est parce qu'en fait, la sexualité des jeunes femmes est pour beaucoup... encore beaucoup trop d'hommes associés à quelque chose, tu vois, de négatif. Tu peux pas être la mère et la putain.
Une anecdote à ce propos, si tu le souhaites. J'ai un ami qui est plus vieux que moi, tu vois, et qui a un fils et une fille. Et en gros, il me raconte, donc son fils, je sais pas, il doit avoir 17 ans, un truc comme ça. Il me dit, je suis trop content, il y a une meuf, j'espère qu'il se fait bien sucer et tout. Et tu vois, sa fille, qui était donc plus grande, et je lui dis, mais tu sais, c'est ouf quand tu me dis ça. Je suis très heureux que tu sois heureux que ton fils puisse se faire sucer. C'est trop bien. Le truc, c'est que tu m'as jamais dit, putain, ma fille, elle a un mec et je suis trop content parce que j'espère qu'elle se fait bien lécher la chatte. Hein. Il a pété un plomb. Et je lui dis, mais tu te rends compte du double standard, en fait, que t'es déjà. Et il me dit, mais non, mais je leur en parle pas à eux. Je lui dis, mais oui, c'est sûr que tu leur en parles pas à eux. Mais dans ta tête, Il y a vraiment un double standard.
C'est ça.
Et ça me fucked up, en fait.
Ouais.
Et donc voilà. En fait, il ne se rend pas compte quand son fils chope des meufs, qu'en fait, sa fille est dans la même situation. Exactement. Elle se fait choper par des mecs.
Tu sais, mais effectivement, voilà, le fait, toi, d'avoir toujours été aux premières loges de cette déconstruction sociétale, d'avoir eu toutes ces jeunes femmes qui ont partagé leur histoire sur les forums, sur toutes les plateformes MAD, etc., je pense que ça... Je ne sais pas dans quelle mesure tu es capable aujourd'hui de comptabiliser ce que ça a changé chez toi, mais moi je connais très peu de gens qui sont aussi ouverts d'esprit que toi sur ces sujets-là. Mmh. Je t'ai vu avec tes filles, vous avez un rapport d'une tellement jolie, à la fois de papa, de tendresse, etc. Et en même temps, t'es proche d'elles comme il faut, t'as une forme de pudeur sur leur vie intime tout en étant assez impliquée pour l'une et un peu plus mise à distance pour l'autre. Hashtag Team Kim.
Ouais.
Mais c'est très joli tout ça. C'est, vous avez réussi à avoir un bel équilibre, en tout cas.
Bah écoute, ouais, et tu vois, pour moi, on parlait,
fragile, hein, mais...
on parlait de transmission tout à l'heure, et pour moi, l'une de mes plus grandes fiertés, vraiment, c'est la rubrique sexe de Mad.
Ah,
parce que je crois que l'un des premiers trucs, quand j'ai découvert les magazines féminins, etc., qui m'ont... Donc ça, je te parle de ça en 98-99, quoi. Je découvre les magazines féminins, et je me dis, mais en fait, le pire truc pour moi, c'est pas l'apparence, machin, c'est vraiment... truc pour bien faire jouir ton gars, quoi.
Ouais,
tu vois,
où c'est les 5 conseils fellation, voilà. Ou comment rebooster son couple. Alors, c'est toi la meuf, t'as toute la charge mentale.
C'est tout le temps toi. Et en fait, je me suis dit, mais c'est fou. Et je crois que vraiment, ma plus grande fierté, c'est à la fois ce qu'on a été capable de faire en termes de transmission, tu vois, de limite de grande sœur,
ouais,
dans la rédac à petite sœur, mais aussi entre les lectrices de maths, parce que le forum sexe était complètement dingue. Je sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, mais en tout cas, il y avait vraiment un vrai truc de transmission entre les meufs plus expérimentées, qui étaient d'ailleurs pas forcément les plus vieilles, et les meufs moins expérimentées, où il y avait toutes sortes de sujets qui étaient abordés, justement, on parlait de BDSM et tout. Enfin, vraiment. Mm-hmm. Moi, ça me remplit de gratitude, tu vois, d'avoir réussi à avoir monté une communauté pareille qui était capable de pouvoir s'ouvrir au plaisir, quoi, tu vois, tout simplement.
Ouais.
Parce que avant de pouvoir être bien dans ta tête, commence déjà par être bien dans ton corps, quoi.
Bien sûr, complètement. Là, on revient maintenant. Célib, Fab.
Oui.
J'ai envie de dire en goguette, hein, sur les applications de rencontres.
Je déteste les applications de rencontres.
Ok.
J'en arrive au point où vraiment
elles sont nulles.
Mais en fait, le truc, c'est que t'es un peu dans un rapport. Je trouve que t'as, en fait, l'appli de rencontre biaise tous les rapports. Parce qu'en fait, tu démarres une relation en ayant déjà un prétexte de... Bah déjà, alors la personne, elle sait plein de trucs sur toi, ce qui est quelque part bien aussi,
oui,
tu vois. Et en fait, je suis très heureux aussi d'avoir pu rencontrer plein de filles avec qui j'ai pu avoir à un moment donné, enfin plein, j'en compte 5, 6, 7, tu vois, ces deux dernières années, qui sont restées des amies, en fait, tu vois, avec qui on a pu coucher ensemble à un moment donné, qui sont restées des amies, et je crois que j'aurais jamais rencontré dans ma vraie vie, en
oui,
fait, si
pour
je les
plein
avais...
de raisons X ou Y.
En dehors du Covid et du confinement, tu vois, elles font tout simplement pas partie de mon univers, donc j'aurais
oui,
jamais pu les rencontrer. En fait, en dehors de ça, je commence vraiment à voir l'aspect fucked up du truc, où bah, t'as des gens qui viennent pour le like, pour se faire
l'ego boost,
booster l'ego, exactement, et qui sont pas du tout dans une recherche. En tant que mec, je sais pas si t'avais écouté cet épisode, j'ai fait un épisode de mon podcast Les Biscuits de la Vie sur les applis de rencontre, où j'explique en fait à quel point c'est de la merde pour les mecs. Mais alors, c'est de la merde pour les meufs et c'est de la merde pour les mecs, hein. Donc pour les meufs se font flooder de messages comme c'est pas possible, et en fait elles en prennent plein la gueule, elles prennent une vague dès qu'elles arrivent, et en fait elles s'en vont aussi vite parce que vraiment c'est trop. Et puis surtout, c'est beaucoup de messages assez peu qualitatifs d'une manière générale. Et en fait, pour les mecs, c'est assez dur de se positionner parce que les femmes font pas le premier pas. En fait, il reste un vrai truc de drague genrée, en fait, au sein de ces applis, qui reproduit un peu la drague dans la vraie vie. Et il y a assez peu de nanas qui font le premier pas et qui like et qui viennent t'envoyer un message, quoi, tu vois, par exemple.
Wow.
Et donc, typiquement, tu vois... J'ai une amie, là, elle s'est foutue sur Bumble, elle me dit, j'y suis depuis 2 jours, j'ai 1900 likes. Et moi, je lui dis, bah alors, bouge pas, moi, j'en ai 2. Et je suis jamais tombé dessus. La plupart des meufs qui me like, généralement, donc avec qui on match, elles enchaînent pas sur une conversation. Et donc, en fait, quand t'en as 3, si tu veux, quand t'as 3 likes, t'es là, Ah bah bon, bah, très bien, toi non plus, donc.
Et la rencontre dans la vraie vie, la drague dans la vraie vie.
Ça fait partie des vrais sujets, ça. Post-MeToo.
Ouais.
Je sais pas comment faire. Alors déjà, je ne sais pas comment faire, puisque globalement, je ne l'ai jamais fait, puisque je ne l'ai pas fait, n'est-ce pas ?
Ok.
Je suis devenu célibataire en janvier 2020. Le confinement, machin. Et en fait, les gens aujourd'hui, c'est assez compliqué, quoi. Tu vois, je me suis retrouvé dans une boîte ce week-end. C'est assez particulier. Je ne sais pas comment faire, tout simplement. Moi, je suis prêt à parler à plein de gens, plein de meufs surtout. Mais en fait, c'est pas forcément très évident.
Qu'est-ce qui va attirer ton regard
Mon regard,
ouais.
Le regard, justement.
Okay.
Enfin, il y a un truc dans les yeux où c'est vachement cliché de dire ça, mais en fait, enfin, moi, je swipe d'abord aux yeux, au regard, et est-ce que t'as un regard qui sourit ou pas, tu vois. Est-ce que tu souris déjà sur tes photos?
Et puis, alors, je te parlais dans la vraie vie, Fab.
Mais non, mais après, tu vois.
Ah, d'accord, pardon.
Mais en fait, c'est pareil.
D'accord.
C'est-à-dire que pour moi, j'ai un peu ce truc-là aussi de à quel point on a le regard qui connecte, quoi.
Ouais. Il n'y a pas un critère qui va te donner envie d'aller parler plus à une femme physiquement. Il y a un. Je sais pas.
Non.
Au-delà des yeux. C'est vraiment le regard.
Ouais. Et puis, en fait, au premier abord, voir comment. Enfin, comment elle t'aborde, en fait, tu vois, tout simplement. C'est, pour moi, c'est ça aussi, le truc, c'est que si tu sors une petite vanne, est-ce qu'elle prend premier dog ou pas premier dog, quoi, tu vois. Pour moi, c'est l'humour est très important. Pas d'humour, pas...
C'est quoi ton rapport à ton corps aujourd'hui?
Ah,
Parce que 45 ans, donc tu commences doucement, mais sûrement...
Partir en couille. Tu pars en couille, effectivement.
C'est quoi ton rapport à ce corps qui...
Bah, c'est trop drôle parce que, ça y est, j'ai des poils de barbe blanc.
C'est-à-dire
que je n'ai quasiment pas de poils, j'ai une barbe inexistante.
Et pour les gens qui ne savent pas, qui n'ont jamais vu Fab n'a plus de cheveux.
Je n'ai plus de cheveux, je suis chauve. Et en fait, mes poils de barbe sont de plus en plus blancs, c'est très intéressant.
Et
je trouve ça trop cool. Et en même temps, il y a un vrai truc un peu frustrant de... Ok, je suis vraiment passé de pas de poils à
poils blancs.
Bah, c'est pas grave, c'est la vie. Mais tu sais, comme j'ai été chauve à 18 ans,
oui.
Enfin, tu vois, 18-20, je crois que j'ai rapidement eu ce truc de ok, donc en fait je vais vieillir et je vais avoir un corps, j'ai une tête de vieux en fait depuis que je suis tout petit. Et d'un autre côté, aujourd'hui j'ai 45 balais, bientôt 45 balais, et il y a plein de gens qui me disent waouh, tu es vachement plus jeune que ton âge.
Ouais.
Mais moi je vais ok, bah très bien, si vous me le dites je finis par le croire, tu vois, mais dans ma tête pas du tout. Mais en revanche, tu vois là par exemple, je me suis fait une entorse de la cheville au mois de mai. Alors je suis très souple. Et je me suis fait une entorse sans me rendre compte, parce que j'ai les ligaments souples. Et par exemple, je sais que cette cheville m'a cassé les couilles pendant tout l'été, et je me suis rendu compte que elle avait du mal à se réparer, et que c'est pas forcément évident, tu vois, de te dire ok, donc en fait à 45 ans, ton corps se répare beaucoup moins facilement qu'avant. Alors certes, je crois que je suis toujours à peu près aussi souple qu'avant, mais par exemple je sais qu'il faut que je fasse du sport, et je sais que en fait quand je fais du sport là c'est dur, vraiment j'ai un peu ce truc de ah,
ça pique. Okay. Un peu plus,
j'ai fait beaucoup de sport jusqu'à 25 ans où vraiment le basket c'était toute ma life, je te disais, vraiment jusque vraiment assez tard où j'étais à fond dans le basket, mais à un moment quand je me suis arrêté, j'ai plus du tout fait de sport, c'est assez étonnant d'ailleurs, mais juste tu vois, aujourd'hui, j'ai une opportunité d'aller faire du basket le dimanche matin. J'ai la trouille de me flinguer les chevilles. Parce qu'en fait, j'ai pas l'opportunité de me flinguer.
Enfin, oui.
J'ai pas le temps. J'ai d'autres choses à foutre que de me retrouver. Tu vois, là, j'ai un ami qui a monté une boîte. Il est allé faire du ski. Il revient avec le genou pété, quoi, tu vois.
Mais bon, c'est vrai que ça pourrait te faire du bien. C'est...
Et je sais. Tu vois, là, par exemple, je sais que j'ai genre 3-4 kilos de trop par rapport à mon...
Pas de forme.
Pas mon poids de forme, par rapport à mon poids d'avant le confinement. Et en fait, j'ai pris 3 kilos pendant le confinement, le deuxième confinement.
Et tu te sens comment avec 3 kilos de plus?
Bah, moins bien qu'avec 3 kilos de moins.
Ok.
Mais pas. Mais encore une fois, tu vois, pas vis-à-vis des filles avec qui je couche, etc. C'est juste par rapport à la forme que j'ai. Et je sais qu'en fait, je marche beaucoup.
Mm-hmm.
Je marche je marche, enfin là par exemple aujourd'hui j'ai pas bougé de chez moi, donc je bosse de chez moi, donc j'ai quasiment pas marché, mais en fait dès que j'ai l'opportunité je me barre à pied et je fais 10-15 bornes par jour quoi. Je sais qu'en fait avec 3 kilos de moins je suis plus léger, et je sais aussi que l'effort à produire pour accéder à ces 3 kilos, arriver à aller taper dans ces 3 kilos,
flemme
un peu, donc bon, on fait avec quoi.
Femme, sur ta sexualité à venir, comment tu vois les choses évoluer? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'essayer? On n'a pas parlé du tout des garçons.
Ah, non. On n'a pas parlé des garçons. Mais en fait, l'homosexualité est une option que j'ai ouverte, en tout cas que j'ai explorée, pas que j'ai explorée dans les faits, mais en tout cas psychologiquement, depuis que j'ai, je sais pas, depuis que j'ai 17-18 ans, tu vois, à me dire, ok, en fait, ça me paraissait étrange que les mecs soient homophobes à ce point-là à l'époque. Je comprenais pas pourquoi, je me disais sans doute ils en ont peur. Enfin, tu vois, j'avais fait un peu fait ce truc-là, et de me dire, bon, bah, ok, moi, peut-être un jour j'aurai une histoire avec un gars. C'est pas forcément. Je l'ai pas encore trouvé, tu vois. Et je me dis, je crois pas que je suis pas attiré par les mecs. Si un jour je tombe sur un mec qui m'attire, c'est très possible que je finisse par sucer une teub. Et après tout, pourquoi pas? Et d'un autre côté, je l'ai déjà fait.
On s'y attend jamais hein, quand tu switches comme ça.
Parce que je l'ai déjà. Je me suis déjà auto-sucé quand j'avais 15 ans. J'ai réussi à m'auto-sucer. En fait, tu vois, je me suis dit, ok, en fait, t'es vraiment très souple. Et vraiment, j'ai eu ce truc de. Donc, imagine, tu me bandes. Enfin, tu vois, ça s'est fait en plusieurs parties dans ma tête. Et après, j'ai fini par me foutre la bite dans la bouche, à me sucer et à me dire, est-ce que c'est gay?
Ok. Ah, c'est intéressant, ça.
Je peux plus aujourd'hui, hein. C'est mort. Mais à 15 ans, j'étais un putain d'élastique, quoi.
Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme opportunité que tu te laisses venir?
J'ai des amis qui sont dans le milieu sexpositif, tu vois. Ouais. Et
je pensais à Maxence qui en avait parlé beaucoup, des soirées, enfin des réunions horizontales, verticales, tout ça.
Et en fait, je sais qu'il y aurait moyen de me retrouver dans une soirée comme ça, tu vois. Ouais. Et d'un autre côté, je me dis, est-ce que j'y serais à l'aise? Est-ce que ça vaudrait la peine ou pas? Peut-être un jour, tu
à
vois,
explorer,
je me laisse l'opportunité de le faire. J'avais interviewé un mec dans Histoire de Mec qui est libertin et qui est 70 balais et qui m'a chauffé à plusieurs reprises pour que je vienne dans ses soirées. Mais je sais que j'ai une opportunité de cette là, je sais que je peux y aller.
C'est quelque chose qui te paraît, qui t'appelle? Pas du tout.
Écoute, pas pour l'instant, mais en fait pour moi, j'ai un vrai truc assez étonnant de... C'est sans doute... Je préférais que ce soit un truc à explorer en couple. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un truc à partager. Pour venir débriefer après avec l'autre, tu vois. Ok, toi, comment tu l'as vécu et machin, quoi. Plutôt que de le faire juste pour ma pomme. Mais bon, peut-être que ça finira par arriver, quoi. J'en sais rien.
Ok. Est-ce qu'il y avait des choses que tu avais envie de dire en plus, Fab, sur la sexualité?
S'il y a des jeunes gens qui nous écoutent, ne vous maquez pas à 17 ans. C'est trop génial de vous maquer à 17 ou à 15 ans. Mais en fait, l'un des trucs fantastiques du 21e siècle, c'est que vous avez accès à tout un tas d'informations qui peuvent vous permettre d'aller explorer vous-même ce dont vous avez envie. Et mettez de côté votre éducation, mettez de côté l'image que vous avez de vos parents, que vous voulez donner à vos parents, ou que vos parents vous ont collé sur le visage quand vous étiez plus petit. Allez chercher ce dont vous avez envie, vous, en fait, plutôt que de vouloir à tout prix rentrer dans des cases dans lesquelles vous dites que c'est là qu'on vous attend, en fait. C'est un peu le truc dans lequel j'essaie d'éduquer mes filles, tu vois. Vous avez vraiment plein de trucs à explorer, et je ne regrette rien, tu vois, de ce que j'ai pu vivre de mes 25 ans de couple. Mais je sais aussi que je suis passé à côté de plein de choses que je suis en train d'explorer aujourd'hui. Et certes, je te le disais un peu plus tôt, c'est super bien de l'explorer aussi à 45 balais dans un autre état d'esprit. Mais je ne sais pas aussi ce que ça m'aurait... Là où ça m'aurait amené de l'explorer à 20 ans, quoi.
Ok. Merci, Fab.
Avec plaisir, merci.
Merci pour votre écoute et merci à Fab, comme d'hab, formidable de passer du temps avec Fab. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des étoiles, une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui aide les podcasteurs indépendants comme moi à grandir et faire connaître encore le podcast. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de On the Verge.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.